Radio Classique, les spécialistes.
Voilà, pendant que le début de l'Open d'Australie est en train d'étouffer, avec en plus évidemment une pollution colossale, nous allons prendre l'air des montagnes. Festival de l'Alpe d'Huez avec vous, mon cher Bruno Kras. C'est un festival du cinéma comique en général, avec un film très attendu pour Danny Boone, dont la dernière prestation, Le Dindon, a été un bide.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est encore un titre animalier, le lion. Mais cette fois, le lion a sorti ses griffes. C'est vrai, c'est plutôt une comédie réussie. Alors, le pitch, il est drôle. Il repose sur un duo, comme souvent les comédies. C'est Philippe Catherine et Danny Boone. Et les duos, ça marche. Hein. On les connaît depuis toute l'histoire de la comédie. Alors, c'est l'histoire de Danny Boone qui joue un personnage qui est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Il est fou. Il se prend justement, vous parliez de James Bond tout à l'heure, il se prend pour James Bond, pour un type qui a des aventures incroyables, qui est invincible. Évidemment, son psychiatre Philippe Catherine ne le croit pas, sauf qu'un jour la fiancée de ce psychiatre est enlevée. Il n'a qu'une ressource, Philippe Catherine, c'est de faire confiance à Léo, Danny Boone, dit le lion. Et là va s'en suivre une cascade d'aventures plus délirantes, plus trépidantes les unes que les autres, des courses-poursuites, voilà, des vols, des cas, etc. C'est bien fait, ça dure 1h35, on ne s'ennuie pas une seule seconde, et c'est vrai que le public a applaudi parce que, voilà, Danny Boone est là, le film marche bien, et on se demande si le duo ne va pas être repris un de ces jours dans la suite des aventures du lion, parce que c'est vrai que ça fonctionne. Ça devrait être un carton, d'ailleurs.
Ah, donc Philippe Catherine, qui actuellement est en train de devenir un des éléments essentiels du cinéma français. Dernière question, pardon de vous demander de répondre rapidement, mon cher Bruno, mais c'est vrai que le cinéma français, quand on regarde tous les bilans économiques, c'est d'abord et avant tout la comédie.
C'est la comédie depuis tout le temps, depuis La Grande Vadrouille, Les Intouchables, L'Intouchable, Les Ch'tis, ça cartonne. Cette année, c'est simple, j'ai fait un petit calcul, sur les 20 premiers films au box-office français, il y en a 13 qui sont des comédies. Donc c'est fou, c'est bien, ça va marcher. Là, toutes les comédies sont présentées, il y en a 8 en compétition, et je vais vous dire, et je terminerai là-dessus, il y a une comédie policière, une comédie sociale, une comédie familiale, une comédie d'aventure, une comédie historique, ça explore tous les genres, donc c'est vrai que les Français aiment la comédie.
Merci beaucoup, mon cher Bruno Kras, donc en direct de l'Alpe d'Huez. Et on rappelle que vous avez chanté les louanges la semaine dernière du film de Sam Mendes, qui est un grand plan séquence sur une aventure extraordinaire de deux personnages en 1917. Un film absolument à ne pas rater. Nous allons enchaîner donc avec vous immédiatement, mon cher Emmanuel Faux, pour parler, donc puisque vous faites une transition avec le cinéma.
On n'est pas loin de 1917.
Voilà, donc près de 30 ans après la chute de l'Empire soviétique, le personnage de Lénine est revisité de façon parfois très critique. Il s'agit évidemment du cinéma et de la télévision.
Eh bien oui, Guillaume, parce que les Russes ont découvert récemment, sur leur première chaîne de télévision publique, une série documentaire en 18 épisodes qui déboulonne littéralement la statue de Vladimir Ilitch Ulyanov, vous savez, le vrai nom de Lénine, l'ancien leader soviétique qui est présenté sous les traits d'un criminel sanguinaire, pas très équilibré mentalement, qui aurait signé en août 18 l'ordre d'éliminer 2 millions de koulaks. Vous savez, c'est ces riches propriétaires fermiers qui étaient perçus comme des contre-révolutionnaires qui avaient peur de perdre leur terre. Côté mental, la mère de Lénine aurait écrit à la police 20 ans plus tôt pour signaler l'état psychique inquiétant de son fils alors qu'il était emprisonné. Et pour compléter le tableau, un autre film sorti l'automne dernier, aussi sur les écrans russes, dépeint Lénine en petit bourgeois, nœud papillon et chapeau melon, allant écouter du Wagner à l'opéra. Et l'acteur interprète du rôle d'expliquer dans la presse que Lénine n'aimait pas les Russes, qu'il voyait comme des moujiks paresseux. Vous voyez qu'on est évidemment très loin de l'image du prolétaire intello transformé en guide du peuple par la propagande soviétique.
Et pourtant, dans l'opinion publique russe, qu'il s'agisse de lui et même parfois de Staline, la popularité reste importante.
Absolument. Il y a eu un sondage réalisé pour le centenaire de la révolution de 17, donc il y a 2 ans et demi. Et selon cette enquête, 56% des Russes disaient avoir une opinion positive, ou plutôt positive, du fondateur de l'Union soviétique, alors qu'il n'était que 41% 10 ans plus tôt. Et vous avez raison, Guillaume, on a observé exactement le même phénomène avec Staline, que les Russes ont progressivement réhabilité et dont ils ont réévalué le bilan au fil de leur désillusion sur la difficulté de bien vivre dans la Russie post-soviétique, à la fois de Boris Yeltsin, puis de Vladimir Poutine. Lénine incarne dans l'esprit des Russes, et surtout les plus de 40 ans évidemment, qui ont des souvenirs dans l'ex-URSS, une forme de grandeur, de puissance passée qui leur manque aujourd'hui. Et quand on leur demande s'ils seraient d'accord pour qu'on démonte les statues de Lénine un peu partout dans le pays, eh bien ils répondent « Nia ». niette à 80%. Pas question non plus de déplacer son corps embaumé qui trône depuis 1930 dans le célèbre mausolée de la Place Rouge. D'ailleurs, après avoir songé à le faire au début de son premier mandat, Vladimir Poutine lui-même y a définitivement renoncé, parce que le chef du Kremlin le sait mieux que personne. La mémoire de Lénine reste aujourd'hui encore un sujet hautement inflammable en Russie.
Merci Emmanuel. 7h46 sur l'antenne de Radio Classique. Vous savez qu'une des caractéristiques de la France dans l'économie européenne, c'est toujours d'avoir eu une démographie beaucoup plus satisfaisante en termes évidemment de naissance que par exemple l'Allemagne ou d'autres pays, ce qui faisait partie de notre force. Or, mon cher Dimitri, nous avons patienté pour le meilleur, il existe maintenant, c'est-à-dire ce matin, une baisse préoccupante de la natalité ici même.
Oui, c'est ce qui ressort du bilan démographique 2019 de l'INSEE. Alors je donne les grands chiffres, nous sommes aujourd'hui 67 millions d'habitants et l'an dernier 753 000 naissances. C'est 6 000 de moins qu'en 2018, c'est aussi 70 000 de moins qu'en 2014. Que se passe-t-il? C'est pas que les femmes ne font plus d'enfants, c'est qu'elles en font globalement moins.
Vous savez, elles les font avec nous aussi. Hein.
Oui, voilà, exactement. C'est cette fameuse taux de natalité qui a tendance à baisser un petit peu. Alors c'est un peu contrariant parce que le taux de natalité c'est une des paramètres importants dans les prévisions qui sont faites pour notre futur système de retraite. Or le taux actuel, 1,87 enfants par femme, est insuffisant par rapport à l'équation que s'impose le gouvernement qui repose sur une projection, une hypothèse de fécondité de 1,95 enfants par femme. Alors, la natalité, la démographie, c'est aussi de l'économie, parce que pourquoi fait-on moins d'enfants aujourd'hui? Il y a eu des attaques sur la politique familiale, je le rappelle, ça datait d'abord du quinquennat Hollande, modulation des allocations familiales, plafonnement du quotient familial. Et il y a la réponse qu'on peut apporter à cela, comment remonter la natalité? On parle beaucoup de l'immigration. Est-ce qu'il faut de l'immigration? C'est une solution qui est apportée. Les Allemands l'ont fait. La différence qu'on a avec l'Allemagne, si je terminerai là-dessus, c'est de dire que si les Allemands ont tout de suite opté pour la solution de l'immigration pour remonter leur démographie, c'est pour deux raisons. D'abord, ils ont une croissance qui tourne bien, un taux de chômage très bas. Alors que nous, en France, on a un taux de chômage qui est élevé. On a un vivier pour cela, pour réduire le chômage avant l'immigration. C'est l'emploi des seniors. Faisons travailler plus nos aînés. Aujourd'hui, il y a un Français sur cinq à 65 ans ou plus. C'est donc pour ça aussi, on en parle beaucoup en ce moment, dans le cadre de la réforme des retraites.
Il est 7h48 sur l'antenne de Radio Classique. Dans la presse de ce matin, vous trouvez l'inquiétude de tous les joueurs. Je le disais tout à l'heure, on en parlera dans la suite de la matinale à l'Open d'Australie, car il y a eu des incidents assez graves lors des qualifications et beaucoup de joueurs, même parmi les plus importants, ils attendent d'ailleurs que les teneurs du tennis se prononcent, qui considèrent que ces internationaux d'Australie sont injouables, étant donné les conditions climatiques. 7h48, voici le journal imprévisible de Renaud Blanc.